Les pieds sur terre, Sonia Grønlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Place de la République, c'est notre rendez-vous citoyen, notre grand débat à nous, une fois par semaine, sur le terrain des services publics, la santé, la police, la proximité. Aujourd'hui, par exemple, au CHU d'Amiens, un homme conduit une auto-laveuse. Sa chemise est siglée Honnet, une société de nettoyage privée chargée du ménage des parties communes de l'hôpital. La dite société étant vouée à remplacer progressivement les agents de services hospitaliers qui sont eux fonctionnaires. Pour l'hôpital, c'est une économie substantielle, un allègement d'une dette vertigineuse et pour d'autres, c'est une privatisation qu'il faut dénoncer, le début de la fin. Pendant ce temps, à la mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille, un dilemme se pose aussi. Un projet d'aménagement du territoire prévoit la construction de plusieurs tours et de 1000 logements. Il fait le bonheur des uns, les promoteurs et les futurs habitants, et provoque l'indignation des autres, les riverains. Car le projet menacerait, selon les inquiets, la beauté, l'harmonie, le caractère unique de leur quartier, et notamment la vue sur la fameuse cité radieuse du Corbusier, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La question enflamme les esprits, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Mais tout de suite, nous retrouvons à côté du commissariat d'Auxerre, dans les locaux de l'Adavir, une dame que nous avions déjà rencontrée la semaine dernière. Violentée par son compagnon pendant 13 ans et enfin entendue par une policière, elle a obtenu la condamnation de l'homme. Ce qui s'en est suivi, c'est tout de suite dans cet épisode 9 de PDLR, dans notre petit jargon, c'est-à-dire Place de la République, saison 2, Pauline Mocor, Rémi Dibowski-Douatte et Jeanne Robet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Police Secours, bonsoir.
J'étais en stress, j'étais en panique, j'étais perdue à ce moment-là. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelée, j'ai dit « Écoute, voilà, tu sais pas ce que je vis et tout. » Elle a entendu à ma voix que ça allait pas, elle a débarqué avec son mari. Et j'ai dit « Ça fait 13 ans qu'il est violent avec moi, j'en peux plus. » Et donc elle m'a dit « Mon mari t'emmène aux flics, tu y vas maintenant. » Et son mari m'a emmenée à la gendarmerie et... Et j'ai enfin tout dit, j'ai raconté mes 13 ans.
Il a été jugé quand ?
Au mois de mars cette année.
En mars 2018 ?
Oui.
Il a eu quelle condamnation, lui ?
18 mois de prison avec sursis, 36 mois de mise à l'épreuve, l'obligation de soins psychiatriques et 1000 euros de dédommagement, pas plus. On attend ce jour avec impatience, en se disant, je vais tout dire, il va payer pour ce qu'il m'a fait. Et c'est en sortant que je me suis dit, mince, j'ai oublié de dire ça, ça. Donc il a pris, mais la justice aujourd'hui, enfin le tribunal, n'a pas entendu certaines choses graves qu'il a fait. Il a fait appel dès le lendemain. Pourtant, il avait tout reconnu, mais il a fait appel. Et après la condamnation, il recommençait petit à petit à me dire, méfie-toi, parce qu'un jour... Mais finissez pas ses phrases, parce que voilà, il savait que je pouvais peut-être porter plainte. Et début janvier, il a mis un post sur Facebook avec une photo d'un fusil de chasse, en notant « Voici mon nouveau joujou, elle va payer ». Et en me ramenant mes enfants un week-end, il m'a dit « De toute façon, tu vas te prendre une balle, que le jour où il agira, ce sera la dernière fois ».
Mais c'était un fusil de chasse, c'était quoi ?
Pour moi, c'était un fusil de chasse, mais il en avait pas avant.
Il n'est pas chasseur ?
Non, non. Et la dernière menace, c'était le 24 septembre, où il m'a dit que de toute façon, il va sortir le fusil, il va faire un massacre. Donc là, j'ai reporté plainte.
Ce mois-ci ?
Oui. Et pour le moment, j'ai pas de nouvelles. J'ai j'ai été voir la police avec la capture d'écran du post Facebook. Et la police, c'est là qu'ils m'ont dit « C'est de l'intimidation, madame. Ne rentrez pas dans son jeu. Il a tout reconnu pendant sa garde à vue. Alors, c'est déjà bien de sa part. Ne rentrez pas dans son jeu. » Donc, je suis repartie. On est souvent rejeté par la police. Une fois, il m'a coursé avec un couteau dans la rue. Il y a 6 ans de ça, j'ai voulu aller porter plainte au commissariat de Provins. Je suis tombée sur une femme qui m'a dit « Ne portez pas plainte, c'est un homme violent. Et si vous portez plainte, ça va être pire. » Donc, je suis ressortie du commissariat et de là, j'ai pris mes enfants, j'ai pris la fuite et je suis partie au Pas-de-Calais. J'ai souvent dû me défendre toute seule, à protéger mes enfants toute seule parce que j'étais rejetée.
Et pourtant, la justice l'a condamnée, là.
La justice l'a condamnée, mais aujourd'hui, je suis encore menacée de mort. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas de protection. Il peut me choper à n'importe quel moment dans la rue. Il me parle comme il a envie. Après, la justice, elle a fait ce qu'elle a pu faire. Elle a peut-être cru qu'en lui donnant 18 mois de prison avec sursis, 36 mois de mise à l'épreuve, qu'il allait se calmer. Il y en a peut-être que ça les calme. Et lui, il s'en fout totalement. De toute façon, il me l'a toujours dit qu'il s'en fout de la loi. Je veux juste qu'on cherche cette arme à feu. La police m'a dit, ça peut être une photo prise sur Google, on ne sait pas. Mais justement, on ne sait pas. Et c'est pas la police, justement, d'essayer de savoir si c'est vrai ou pas. Qu'ils cherchent au moins qu'ils cherchent, qu'ils fassent leur travail. Mm-hmm. Moi, quand ils me menacent de mort, je suis encore en train de trembler, à m'arrêter de travailler pendant 3 jours, parce que je sais pas s'il va passer à l'acte ou pas. Donc, je suis toujours dedans. Je recommence à le laisser faire. J'ai encore laissé le droit de me parler comme il avait envie, de me faire peur, de... Je le relaisse me manipuler. Et c'est l'assistante sociale qui m'a réveillée. Elle m'a appelée un après-midi et elle m'a dit que si je déposais pas plainte, elle me ferait une dénonciation pour non-protection de l'enfance. Il a dit qu'il allait sortir le fusil et faire un massacre. Donc à ses yeux, les enfants sont pas assez protégés. Donc elle m'a dit que si je portais pas plainte, elle me ferait une dénonciation pour non-protection de l'enfance. Voilà pourquoi j'ai déposé plainte. J'avais peur de ne pas être écoutée et j'ai été reçue par une dame qui était très en colère de ce qu'elle entendait, donc je voyais qu'elle me comprenait. Et elle m'a très bien écoutée et elle a pris le temps de me faire le dépôt de plainte. C'est quand j'ai déposé plainte qu'ils m'ont dit que j'allais être contactée par la brigade de protection des mineurs à la gendarmerie d'Auxerre. J'ai été contactée 3 jours après. Donc on m'a fait venir à la Davière, ici. Et on m'a aidée sur tous les points, trouver un logement, tout. J'ai été aidée en peu de temps. Donc j'ai porté plainte le 17 décembre, j'ai été faire Noël chez ma mère. Et le jour de Noël, j'ai sorti la plainte devant mes 2 sœurs, ma mère. Et je leur ai demandé de la lire. Elle était longue. Mais je voulais qu'ils la lisent, je voulais qu'ils comprennent tout ce que j'avais subi. Et ils l'ont lu. Ils ne comprenaient pas. « Attends, tu ne nous en as jamais parlé, machin. » Donc je leur ai expliqué des détails. « Maman, tu te rappelles quand tu m'avais invité, telle date ?» J'étais pas venue. Mais j'avais un bleu sur le visage, je ne pouvais pas venir. Moi, mon père, quand je lui ai annoncé ça, il m'a dit « Laetitia, c'est un bosseur. » Je me suis énervée après mon père. J'ai dit « Ça doit être un bosseur, il me tape dessus. » Il te tape, mais il prend soin de toi. Mon père est encore dans l'ancien temps. Son père était assez strict et sévère avec ma grand-mère. Donc, il connaît un peu ça, mon père. Il l'a vécu quand il était petit. Donc, à ses yeux, c'est pas important. Il ramène des sous, il vous nourrit, il paye les factures. Ça, c'est important. J'ai appris par la suite qu'il le voyait en cachette. Donc, il continue à l'inviter au restaurant. Comme pendant 13 ans, j'en ai jamais parlé, il l'a aimé comme si c'était son fils. Et du coup, il a du mal à s'en séparer. Donc, J'ai appris à accepter. J'accepte, et puis mon père, c'est un homme qui l'a quand même aussi pour moi. Vous savez qu'après la plainte, pour la garde d'enfants, on avait l'obligation de se rejoindre à la gendarmerie d'Aillon-sur-Toulon pour déposer les enfants. Un jour, j'y vais pour récupérer mes enfants, je l'attends, et je vois une voiture arriver, une femme qui voulait déposer son mari à la gendarmerie d'Aillon. Il a mis un coup de poing dans la gueule devant moi. Il est remonté dans la voiture, il lui hurlait dessus, « Tu me ramènes à la maison, tu me ramènes. » Je suis sortie de la voiture, j'ai dit « Madame, vous voulez que j'appelle les gendarmes ?» Et elle était en pleurs, elle m'a dit « Non, non. » Moi, je venais de sortir de tout ça. Il y en a qui vivent encore. Cette femme-là, j'aurais pu parler 5 minutes avec elle. Elle aurait quitté son mec. J'aurais rencontré avant une personne qui aurait subi ça. Ça m'aurait fait du bien déjà de pouvoir y en parler à elle parce qu'elle m'aurait comprise. Et peut-être qu'on aurait pu s'entraider à les quitter. Parce qu'avec notre famille, on ne peut pas tout dire. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on reste. Alors qu'une personne qui le subit, elle comprend pourquoi on reste. Parce que c'est con, mais c'est... Je l'ai aimé, mon mari. Je l'ai énormément aimé. J'aurais tout fait pour lui. J'ai essayé de le faire suivre 2 fois par un psy. C'est moi qui payais le psy, sinon il n'y allait pas. Je voulais lui montrer que je l'aimais, parce que je me disais, en lui montrant que je l'aime, il va s'arrêter. Il va comprendre que je l'aime, que j'y veux du bien. Finalement, on subit. Et c'est vraiment quand on sort de ça qu'on se rend compte que la vie, elle est belle. Et la vie, c'est pas ça. Maintenant, j'ai envie que tout le monde le sache. Tout le monde sache tout ce que j'ai vécu.
France Culture, les pieds sur terre.
CHU Amiens Picardie, bonjour.
Alors moi je suis technicien de laboratoire, donc on réalise les analyses biologiques, sanguines et autres, et syndicaliste bien sûr. Ça fait 20 ans que je suis rentré dans la fonction publique. Je suis passé par avant par le secteur privé, lucratif, donc dans un laboratoire privé, qui ne me convenait pas, que ce soit en termes de rémunération. Et surtout, le secteur privé est resté très concentré sur des analyses de routine, alors que quand vous êtes dans un hôpital, vous avez un panel d'analyses beaucoup plus important et une évolution de carrière et de secteur et de spécialité beaucoup plus important. J'étais en contrat à durée déterminée dans le laboratoire où j'étais et n'étant pas sur une situation stable, j'ai postulé donc à l'hôpital et j'ai été retenu. Donc je suis arrivé à l'hôpital au départ sans savoir ce qu'était quand même la fonction publique. Et la fonction publique, on la découvre après. L'hôpital public, pour moi, tout ce qui est fonction publique d'ailleurs, c'est de la richesse des pauvres. Parce qu'en fait, quand on n'a rien, vous pouvez venir à l'hôpital, vous serez toujours reçu et on ne vous demandera pas votre carte bleue avant de vous soigner. Ici, on est obligé de soigner qui que ce soit, de n'importe quelle nationalité, de genre, etc. et de religion. Et on ressent ici les classes sociales, moi je dirais. On voit bien qu'on a de tous niveaux sociaux, qu'on ne retrouve pas dans les cliniques. Quand on voit la clinique Pochet d'à côté, vous voyez les Porsches sortir de l'établissement parce que les médecins là-bas sont actionnaires. Et ici, vous pouvez chercher les grosses voitures, on n'en voit pas beaucoup, même chez les médecins. Et c'est ça la fonction publique, c'est pour tout le monde et on est indispensable. Voilà. Aujourd'hui, l'hôpital est effectivement en grand chamboulement, mais depuis déjà une bonne dizaine d'années, puisque aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'hôpital entreprise. Donc on fait tout comme une entreprise. D'ailleurs, aujourd'hui, on a la tarification à l'acte et à l'activité. Si vous avez déjà entendu parler, ça s'appelle la T2A. Ça veut dire que pour avoir des financements, pour avoir du fric, il faut faire de l'activité. Donc c'est pour ça qu'on est dans une course aujourd'hui continuelle à l'activité. Parce que si on ne fait pas d'activité, il n'y a pas de rentrée. Et s'il n'y a pas de rentrée, c'est du déficit. Donc en fait, les directions veulent qu'on fasse toujours plus d'activités pour rentabiliser notre hôpital. Ça veut dire qu'il faut toujours faire plus de patients, raccourcir les durées moyennes de séjour, ce qu'on appelle les DMS. C'est-à-dire qu'en fait, avant, si vous restiez 5 jours, maintenant, on vous demande d'y rester 2, voire 3, et voir parfois que faire de l'hospitalisation le jour, ce qu'on appelle aussi la médecine ambulatoire, la chirurgie ambulatoire. En fait, il faut être le moins longtemps possible, ce qui permet de faire entrer-sortir plus de monde, et donc d'amasser un peu plus de finances. Et du coup, plus on est en court séjour, et moins on a de temps consacré aussi aux patients, à l'écouter et à discuter. Quand vous allez discuter avec les directions, on ne vous parle que d'indicateurs, de marge brute, de durée moyenne de séjour, de déficit.
Et concrètement, cet hôpital, il est en déficit ?
Oui, on a 8 millions d'euros de déficit cette année, on a un demi-milliard de dettes, donc automatiquement, chaque année, l'administration est à la recherche d'économies. Hein, ça, je veux dire, sans vouloir frapper sur les directeurs, on leur dit qu'il faut rentrer dans les plans de retour à l'équilibre. Donc, on a une direction qui nous dit « nous voudrions faire mieux », mais on a une contrainte budgétaire par le ministère et par les politiques qui votent. Hein, comment on fait pour soigner avec l'argent qu'on nous donne ? Et ça, c'est une grosse difficulté. Donc, on trouve des astuces, c'est-à-dire on met moins de personnel, on ne remplace plus les gens qui sont malades, on demande de faire de la productivité, c'est-à-dire toujours plus, avec autant ou moins. C'est toujours faire plus de fromage avec moins de lait. Vous voyez, c'est exactement l'image aujourd'hui de la fonction publique, c'est qu'il faut toujours faire plus avec moins. Le CHU d'Amiens a augmenté de 25% d'activité hospitalière en 5 ans, zéro embauche. Mais la conséquence de tout ça, c'est qu'on a un personnel qui est fatigué, usé, puisqu'il fait plus d'activité qu'avant. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on a un pourcentage d'absentéisme important, qu'on a un ras-le-bol des infirmiers et des aides-soins, enfin, c'est toute la chaîne. On a pas mal d'infirmiers qui veulent changer de métier ou faire du libéral, c'est-à-dire rester infirmier, mais aller dans le secteur libéral où ils seront patrons et ils pourront gérer leur activité et leur cadence comme ils l'entendent. Et même certains, il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu un dossier d'un infirmier qui demandait un congé de formation professionnelle, ce qu'on appelle le CFP chez nous, pour faire chauffeur de bus. Alors ça, j'étais un peu atterré, c'est quand même aujourd'hui Bac plus 3, c'est une licence professionnelle d'infirmier, et la personne me dit « moi je peux plus, je ne me reconnais plus en soignant ». J'ai pas l'impression de soigner, ça va trop vite. Il considère qu'il fait mal son travail. Et aujourd'hui, ils ne se reconnaissent plus pour certains. Et on a pas mal de départs. D'ailleurs, on a un petit souci de recrutement actuellement, de fidélisation et d'attractivité par rapport à ce qui est devenu l'hôpital, une machine à produire du soin.
Mairie 6-8, bonjour.
C'est à votre nom les 4 quêtes, c'est ça ?
Oui, il y en a deux à mon nom et deux à une association.
Alors l'association, vous le mettez à part, et ce qui est au même nom, en fait, vous le mettez dans une requête. Donc vous faites que deux requêtes.
Parfait.
Voilà. Là, il doit y avoir, une bonne vingtaine de personnes qui attendent. Pour une mairie de secteur, ça ressemblait quand même beaucoup de gens. Alors là, c'est sur l'OAP Michelet.
OAP.
C'est des orientations sur des projets d'aménagement qui vont être faits sur le territoire de Marseille. Donc notamment une sur Michelet qui a réuni beaucoup de gens ici. Donc qui est à côté du Corbusier. Voilà, ça pose des soucis aux gens qui connaissent le quartier depuis longtemps. C'est un quartier en fait qui est pour l'instant très peu densifié. Et donc du coup, la métropole avait des volontés en fait pour densifier ce quartier, quoi.
Ils veulent construire 1000 logements, ça fait 2000 personnes, voire 2500 personnes, minimum 2000 voitures, des tours de 17 étages, 54 mètres de hauteur, à côté du Corbusier. Les cônes de vue n'ont pas été respectées, enfin bon bref, il y a énormément de choses qui ne sont pas dans la légalité. Le quartier Sainte-Anne, c'est un village dans la ville, et ils veulent faire une ville dans le village. Et ça, c'est fort dommage. Rien n'a été prévu pour la circulation. C'est déjà encombré. Au milieu, il y a une zone inondable. Il y a quand même des réserves du préfet, mais bon, visiblement, ça n'a pas été pris en compte. Il y a l'UNESCO au niveau du Corbusier qui n'a pas été contacté, ce qui est tout à fait anormal et illégal, puisque dès qu'il y a une construction, on doit appeler l'UNESCO. L'UNESCO est venu sur Marseille il y a quelques jours, a remarqué les manquements. Maintenant, l'OAP, est-ce qu'elle va être viable? Il y a de fortes chances que non. Et donc, on s'est tous regroupés pour ça, pour contrer cette OAP qui est totalement démesurée. On n'est pas contre faire quelque chose, mais pas n'importe quoi, et dans ces conditions-là.
Moi, je suis un habitant de Corbusier. J'y ai habité 28 ans. Donc je suis particulièrement concerné par les horreurs qu'ils vont construire en face chez nous. On entend même dire que le Corbusier, qui a eu beaucoup de mal à être classé par l'UNESCO, risque de perdre ce classement, ce qui est scandaleux. Tout ça pour satisfaire les promoteurs.
Ouais, bon, c'est make money, c'est tout. Si c'est bon faire quelques immeubles normaux, ça ne nous gêne pas, mais ce qu'ils prévoient, c'est pharaonique. Hein. 3 tours de 17 étages, 54 mètres, donc la hauteur du Corbusier. On nous a dit qu'il n'y aura pas de place de parking au sous-sol. La loi dit qu'on doit, chaque fois qu'on construit, on doit faire des parkings. Là, visiblement, les gens qui vont habiter ces tours vont aller se garer sur les autres parties. Donc ça, c'est aussi une grande inconnue. Donc Peugeot disparaîtrait, Casino donc va être rasé, peut-être reconstruit, la galerie marchande, ben tous les commerçants se posent d'énormes questions parce que ben on n'en parle pas. Ensuite vous avez cette Squatch qui représente quand même une attraction importante dans le quartier. Hein. C'est il y a piscine, il y a le Squatch Club, un restaurant qui, ben, on ne sait pas ce qu'elle devient, puisque quand on regarde la maquette, ça disparaît.
Ce qu'ils vont construire, ça va s'adresser encore à une élite, avec des prix au mètre carré qui seront très élevés. Et dans le quartier, on est déjà saturé de ce genre d'immeubles. Donc ça va faire diminuer la valeur des immeubles qui ont été construits autour. Et ça va pas du tout répondre aux besoins des Marseillais qui ont besoin d'appartements abordables. Quand on regarde les locations dans le quartier, c'est de la folie. Donc, soi-disant, on fait des immeubles qui sont faits pour accueillir du monde, mais le parc locatif, il est absolument inabordable. Donc, je comprends pas le but final d'un tel projet.
C'est du promoteur.
Oui, mais enfin, il faut vendre. Et les gens qui vendent pour faire des placements, ils n'arriveront pas à les louer. Donc c'est une aberration, encore une fois.
Nous, ça fait depuis 62 qu'on habite à la plaine, pas loin de la rue d'Aubagne, là, tout ce qui s'est passé, etc. Donc, c'est un vieux quartier populaire. Nous, ça va faire plus d'un demi-siècle qu'on est là. Hein.
Et vous êtes venu pour poser quelles questions?
Mais nous, on est venu un simple citoyen pour rencontrer le commissaire enquêteur. Compte tenu de notre ancienneté qu'a le quartier, par rapport à son évolution, on se rend compte que les choses évoluent très lentement. Et quand ça évolue, c'est pas dans le sens, je dirais, écologique d'avoir des espaces verts. C'est encore du béton et du goudron. On a coupé des arbres, alors c'est pas bien ça.
Plus d'arbres, on a tout coupé.
Et puis ils sont toujours en train d'arranger et de démolir. Casser, de refaire, de casser, c'est horrible ça. Je sais pas, c'est le service de normalement de l'urbanisme de la ville de Marseille qui devrait être à cheval là-dessus. Je sais pas, à un moment donné, faire en sorte que... On dirait que c'est les entreprises qui commandent à Marseille, pas la maire de Marseille. Parce qu'à Marseille, avant, il y avait des lignes de tramway de partout. On les a enlevées par économie, pour mettre le bus, paraît-il que c'était plus économique que les tramways. Alors maintenant, on enlève les bus et on remet les tramways. Alors vous voyez un petit peu l'argent gaspillé qu'il y a eu, voilà. Il y avait un grand hôpital militaire magnifique, une bâtisse magnifique, avec une cour intérieure, avec des passages avec des arcades. C'est une splendeur, ce bâtiment-là. Ils ont rasé pour mettre des logements. Voilà, alors on vient pour dire les quelques espaces qui puissent être réservés, il faudrait le voir de manière que dans le temps, si ces espaces se vident, on puisse véritablement en faire des espaces communs, quoi, voilà, où tout le monde peut se rencontrer, où on peut promener les enfants, où les jeunes peuvent avoir, je dirais, des espaces sportifs. Voilà, tout ça, on est venu pour ça. On n'est pas venu uniquement pour nous, mais surtout, c'est pour l'ensemble du quartier qu'on vient, voilà.
Guignemi.
Vous êtes les suivants.
Ah, voilà. Bonne nouvelle.
C'était Place de la République, épisode 9 de la saison 2, un reportage de Rémi Dibowski-Douat, Pauline Mocor et Jeanne Robet, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Sophie Macquart-Moulin, au commissaire Thomas Boudot, au capitaine Di Lullo, à Marie-Laure Boire, à Séverine Collado et à Catherine Maupetit-Gel, ainsi qu'à Grégory Leduc, aux habitants du Corbusier, à Raphaël, le vacataire de la métropole, et à Yves Morène, le maire de secteur. C'est Jeanne Delocroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et nous avons une nouvelle stagiaire, Zoé Marie Roulier. Bienvenue à elle.